Votre émission sur Nutri Radio vous est présentée par les laboratoires COPMED, experts en produits de santé naturelle.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
Bonjour Vincent.
Bonjour Fabrice.
Le docteur Vincent Renaud, il est en pleine forme aujourd'hui.
Ouais, j'ai la patate, j'ai la pêche.
Alors on enregistre dans votre cabinet parce que vous avez tellement de consultations, de choses à faire. Vous m'avez dit, je ne peux pas venir au studio et donc on se plie aux exigences. On a déplacé la caravane, un peu comme le car, vous savez, les cars de France Télévisions pour le Tour de France. Ouais. C'est un peu les moyens qu'on a déployés pour vous. On a bloqué l'avenue là, vous avez vu ?
J'ai vu. Il y a effectivement, les patients du coup ne peuvent plus se garer, ne peuvent plus arriver à cause de votre bus à la noix, là je comprends pas.
C'est vrai.
Enfin, en termes d'emploi du temps, vous êtes pas mal non plus, Fabrice.
Oui, bah après, c'est pas mal pour l'environnement, puisqu'on a laissé le camion en double fil et moteur allumé.
Ouais, moteur allumé.
Ah, je plaisante, chers auditeurs, je plaisante. Allez.
Mais non, il vit en vélo, Fabrice. C'est un sportif, il est écolo, il est hyper zen. Il a fait sa séance de méditation.
Exactement. On fait ça tous ensemble et chaque mardi matin, parce qu'il faut bien faire cette séance de méditation avant de scoltiner Vincent Renaud, je peux vous le dire. Hein, parce qu'il a tellement d'énergie. Mais cet homme a une énergie incroyable. Donc, quand on a un petit coup de mou, il nous en transmet beaucoup et vous êtes nombreux à écouter ses émissions et à suivre attentivement ses recommandations et ses observations. Et aujourd'hui, on va parler de l'Alzheimer.
Alors oui, là, ça va peut-être pas nous donner beaucoup d'énergie, j'en sais rien.
Non, mais
je risque de casser le moral de beaucoup de gens. J'espère en tout cas plutôt donner de l'espoir, parce que c'est le but de notre émission.
Vous allez informer les gens.
On va leur donner des nouvelles pistes.
On va leur donner des clés. Alors, on va pas revenir sur ce qu'est l'Alzheimer, parce que, ok, on est quand même
en quelques définitions quand même. Hein.
On est sur Nutri Radio, les gens savent. Mais allez-y, donnez-nous quelques définitions. Et après, surtout, qu'est-ce que la médecine fonctionnelle?
Si on ne sait pas comment démarre cette maladie, on peut pas savoir comment on la traite.
Ça y est, là vous m'intéressez. Là vous nous avez attrapé. Bam.
Et oui, il faut des cibles. Et alors, en tout cas, je voudrais quand même citer la référence aujourd'hui, qui est le livre de ce monsieur Bredesen, qui fait beaucoup couler d'encre. Le professeur Bredesen, hein, c'est pas les petits gâteaux Bredesen.
C'est pas les Bredesen. Oui.
Bredesen, ça s'écrit Bredesen. Achetez son bouquin qui s'appelle La fin de l'Alzheimer, qui est sorti en 2014. Donc vous voyez, ça fait déjà 10 ans. Ça fait coller beaucoup d'encre parce qu'il y a quelques neurologues qui remettent en question sa théorie. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup évoluer les choses sur ces maladies neurodégénératives. Pas que l'Alzheimer, mais toutes les maladies neurodégénératives par sa compréhension, sa physiopathologie, comme on dit chez nous les médecins. Et ce bouquin, La fin de l'Alzheimer, il a sorti en fait un programme qui s'appelle le programme RECODE, R-E-C-O-D-E. Peut-être que Fabrice, vous n'étiez pas né à l'époque.
Pas du tout, toujours pas né d'ailleurs.
2014, voilà, donc il était encore avec ses couches et voilà, il débutait dans le métier de la radio. Et donc ce programme RECODE, je l'ai beaucoup utilisé au sein de mes consultations parce que ça intègre la santé intégrative. Alors on a parlé d'oncologie intégrative avec Jean-Louis Mousset, et là on pourrait parler de médecine internative dans les maladies neurodégénératives. Alors on pourrait intituler ça la neurodégénérative intégrative. Ou la neuro-intégrative médecine, je ne sais pas, j'invente un nom, je vous regarde. La neuronutrition.
Oui.
Ou la neuromicronutrition. Alors ça, c'est, j'utilise des termes un peu à la mode. Je sais que mon ami Jean-Paul Curtet avait déjà écrit un livre sur la neuronutrition. Il a sorti un livre d'ailleurs sur l'Alzheimer aussi récemment. J'ai vu ça récemment dans les médias. Il va bien d'abord, Polo.
Jean-Paul Curtet vous embrasse, vous le verrez le 7 juin lors de cet événement incroyable que nous organisons
à ne pas manquer
à Nice, effectivement, le Nutritalk Gala. Merci de m'avoir tendu la perche parce qu'entre outre Jean-Paul Curtet, vous serez là également.
Je serai là. Et mon ami Jacques Bassier, j'espère.
Jacques Bassier, Marion Kaplan, il y aura Jean-Louis Musset que vous avez cité également. Enfin bon, j'ai pas la liste là sous les yeux.
Que des stars.
Mais que des gens qui ont envie de partager des choses avec les auditeurs pour faire avancer cette considération et cette vision de la santé intégrative. Ce sera le 7 juin au Sheraton de Nice. On a préparé, je vous dis, on a mis les petits plats dans les grands. Cette histoire m'a ruiné.
Voilà. Oui, je sais,
j'ai fait un banco.
Alors moi, j'attends la surprise avec impatience. Je ne viens que pour la surprise, d'ailleurs.
Je fais un banco. C'est-à-dire qu'il y a ces tables rondes en fin d'après-midi, suivies du dîner gastronomique, suivies des surprises. On va faire des. Voilà, je ne peux pas vous dire plus que J'ai fait all-in.
All-in, venez.
J'avais un 2 dans mon jeu de cartes, j'avais un 2, un 3, un 7, j'ai fait all-in.
Voilà, Fabrice aime bien effectivement les risques, l'amour du risque comme on dit. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon.
Alors, attendez, vous parlez de neuronutrition. Comment, en santé intégrative, comment les micronutriments vont-ils pouvoir jouer un rôle
Ils vont jouer un rôle partout. Si on connaît la physiopathologie d'une maladie ou d'un syndrome, on sait sur quelle cible on va agir. Donc l'Alzheimer, c'est plusieurs mécanismes qui vont se mettre en route. Il y a une dégénérescence neuronale des fibres et des neurones qui va effectivement libérer une protéine qui s'appelle la protéine tau. Alors cette dégénérescence neuronale, elle ne vient pas là par hasard. Elle est l'aboutissement de plusieurs années de destruction progressive de la gaine de myéline, des axones et des corps cellulaires qui contiennent un noyau et qui petit à petit vont détruire ces neurones. Vous savez qu'un neurone, ça a une demi-vie, ça a une vie relativement longue et ça se régénère très très lentement. On parle de plasticité neuronale. Pendant des années, on a cru que les neurones étaient malheureusement non réparables. On ne pouvait pas les régénérer, qu'une fois qu'ils étaient détruits, c'était à vie. Alors, on a découvert déjà, maintenant, ça fait presque une vingtaine d'années, cette capacité qu'ont les neurones grâce à des facteurs de réparation qu'on appelle BDNF et d'autres types de facteurs. Ça permet effectivement une régénérescence de ces neurones. Alors, on sait qu'en vieillissant, cette régénérescence diminue avec l'âge et chez certaines personnes diminue beaucoup plus vite que d'autres. Il y a évidemment un déséquilibre entre cette neurodégénérescence d'un individu à l'autre en fonction de plusieurs critères environnementaux. Et ça, c'est très important. On en avait parlé avec notre ami Christian Vélo. Donc, on sait que les métaux lourds, en particulier l'aluminium, est un vecteur clé dans la dégénérescence neuronale et dans l'apparition des plaques amyloïdes et la destruction de la protéine tau. Donc, ça, c'est quand même très important de le signaler. Donc, nous, en tant que médecins de santé intégrative, on va s'intéresser à cette voie de détox des métaux lourds, comment faire en sorte que ces protéines tau et cette plaque amyloïde, bêta-amyloïde, ne viennent pas interférer au niveau des plaques séniles et bloquer la régénérescence des neurones, puisque c'est un peu le mécanisme. Je schématise énormément, c'est sûr que mes maîtres et les professeurs qui m'ont enseigné tout ça bondiraient en m'entendant en disant « Oui, mais là, il fait des raccourcis, Vincent. Oh là là, moi, je dirais quand même que c'est pas tout à fait la vérité. » Alors, on est sur Nutri Radio et on est effectivement obligé de faire des synthèses et des schémas. Mais
voilà, on sent que vous êtes fait tirer les oreilles, vous.
Oui. Non, mais des fois, j'ai des amis universitaires qui écoutent mes émissions et je les embrasse d'ailleurs et je suis très fier de savoir qu'ils écoutent Nutri Radio. Et on est de plus en plus d'auditeurs d'ailleurs. Et ils me disent « Oui, j'ai écouté ton émission la dernière fois, tu as dit des petites choses, mais ce n'est pas tout à fait la vérité. » J'ai dit « Oui. » Je suis obligé de faire des raccourcis, on est face à un grand public.
S'ils savaient comment ça se passe. on les attend Micronutri Radio pour que. C'est vrai que dans le contexte, parce qu'on est toujours dans les conditions du direct, donc forcément.
Rien n'est préparé, j'ai pas d'antisèche, regardez.
Mon
bureau il est vide, il n'y a rien.
Le bureau est vide, c'est de la conversation, c'est du partage d'expérience, et forcément il y a parfois des petites inexactitudes ou des choses qui n'ont pas le temps d'être dites, parce que ça passe très vite. D'ailleurs, la preuve, maintenant on va faire une pause, et là vous vous attendez pas. Donc on fait une pause, on remercie notre partenaire d'ailleurs, le laboratoire CopMed. Ouais. Sur ces émissions, merci à eux.
Je les embrasse.
L'année prochaine, 1 million d'euros. Donc, on commence à faire.
Le million.
Allez, on les embrasse.
À tout de suite.
Vraiment, merci à toutes leurs équipes. On fait une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission Santé intégrative sur Nutri Radio. On parle de la maladie d'Alzheimer et j'aimerais, s'il vous plaît, Vincent, que vous reveniez un peu plus en détail sur cette fameuse protéine tau que beaucoup d'auditeurs découvrent finalement avec vous.
On oui, c'est des théories assez récentes, hein, ça, une dizaine d'années.
Très bien. Allez, on revient dans un instant sur Nutri Radio.
En plus de 30 ans, les laboratoires CopMed se sont forgés une réputation inégalée dans la formulation de produits de santé naturelle. Devenus experts notamment en micronutrition, ils proposent aujourd'hui une gamme complète, innovante et 100% française qui répond à tous vos besoins. Laboratoire CopMed, l'exigence d'une très haute qualité au service de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
La suite de cette émission Santé intégrative sur Nutri Radio. Merci d'être avec nous. Nourrit le corps et l'esprit. Il nourrit notre esprit. Le corps, il s'en occupe pas peut-être plus tard.
Oui. Si, je fais du sport quand même.
Mais oui, mais en tous les cas.
C'est...
aujourd'hui, mais ça c'est un peu le problème à tous, hein, tous les grands travailleurs que nous sommes tous, hein, tous les auditeurs de Nutri Radio d'ailleurs, prenez soin de vous, reposez-vous. En écoutant par exemple ces émissions, vous apprenez que cette protéine tau joue un rôle crucial dans le maintien de la structure des microtubules dans les neurones. C'est ce qu'on... Mais oui, non, mais il n'y a pas...
Mais c'est, là, c'est mais c'est qu'il va faire l'émission à ma place, travail, Fabrice.
Mais oui,
merci. Non,
mais, par contre, moi j'ai un prompteur, vous voyez, c'est différent. J'ai deux, trois notes que je prends pour pouvoir m'y repérer. Puisqu'on parle de l'Alzheimer aujourd'hui, donc vous nous avez mentionné cette protéine tau.
Oui, cette protéine tau va subir plusieurs modifications liées à des troubles environnementaux. Donc on a parlé des métaux lourds, mais on a aussi l'oxydation. C'est une maladie oxydative pro-oxydante, en particulier oxydation par les sucres. On l'appelle le diabète de type 3, la glycation. On en a déjà parlé sur cette antenne. L'hémoglobine glyquée, d'ailleurs, est un marqueur intéressant que vous pouvez analyser pour évaluer si vous glyquez beaucoup ou pas. Voilà, vous glyquez GLYQE, hein, on ne faut pas se tromper. Cette glycation, qui est une oxydation des protéines par le sucre, et cette protéine tau va subir des mécanismes de glycation, de caramélisation, de, comment on pourrait citer ça, hein, d'oxydation et de transformation de sa structure. Du coup, elle ne peut plus répondre à cette réparation de ses microtubules, elle va dégénérer et elle va venir perturber la plaque sénile et la plaque bêta-amyloïde, et elle va perturber la connexion entre les synapses et la neurotransmission. Donc en gros, il y a deux phases d'évolution dans l'Alzheimer. Une dégénérescence de la protéine tau par des phénomènes d'oxydation et de glycation en particulier. Attention, danger au sucre. C'est pour ça que les diabétiques, les obèses sont plus exposés à l'Alzheimer que les personnes de poids, j'allais dire, de corpulence normale. Attention aussi à l'insulinorésistance, parce qu'elle est extrêmement fréquente dans nos populations modernes, occidentales, avec cette alimentation qui se dégrade malheureusement de plus en plus et au fil des années. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est cette apparition de cette plaque amyloïde, qui est en fait un mécanisme physiologique, puisqu'elle va permettre l'enrobage, on va dire, un petit peu comme les films étirables, je ne sais pas si vous avez ça, les films étirables pour mettre sur vos restes alimentaires que vous ne voulez pas jeter, vous les mettez au frigo, hein, ces fameux films étirables qu'on va mettre sur le dessus de votre assiette. Et bien ces espèces de films étirables, on ferme une espèce d'écran qui va bloquer la protéine amyloïde. Ça va faire un film qui va bloquer la plaque sénile et empêcher qu'elle se régénère. Puisque j'étais en train de parler, quand vous m'avez coupé, Fabrice, en disant qu'on est en permanence en réparation. Hein, la plasticité neuronale, c'est je détruis des neurones au fil des années. Hein, ils deviennent sénescents, ça fait des plaques séniles qui ensuite vont être éliminées par nos systèmes déboueurs, par le système immunitaire en particulier. Et ensuite, je répare pour faire un tout nouveau neurone, tout propre, tout neuf, qui sort du magasin, tout neuf, en révision. Il sort de la boutique. Et va remplacer le vieux neurone et la vieille plaque sénile qui, elle, n'a plus d'activité, a été détruite. Et si vous avez effectivement un excès de plaque bêta-amyloïde, eh ben, ces plaques séniles vont finalement s'incruster dans votre neurone. Alors ça part toujours de l'hippocampe et puis ensuite ça va évoluer vers la périphérie du cerveau pour aller jusqu'à vers l'avant. L'hippocampe est plutôt en retrait du tronc cérébral. Et ça va commencer par des troubles de la mémoire et puis petit à petit, alors mémoire temporo-spatiale, on ne reconnaît plus, on ne sait plus rentrer chez soi, on perd ses clés, on a du mal à reconnaître telle ou telle personne proche, on ne retient plus les noms, on perd ses lunettes, on perd ses clés. Bref, tous ces troubles cognitifs qui apparaissent progressivement doivent alerter tout de suite les patients qui doivent consulter un neurologue pour faire des tests, en particulier les fameux mini mental tests. Donc quand on reprend la physiopathologie, il y a au départ une oxydation de la rouille, les métaux lourds, de l'inflammation. Hein, ça fait quand même déjà pas mal de situations intéressantes sur lesquelles, et des troubles immuno-inflammatoires. Et ce n'est pas tout. On sait aussi qu'il y a un autre facteur en cause, c'est les troubles hormonaux, en particulier la ménopause et l'andropause pour les hommes ou DALA, déficit androgénique lié à l'âge. Les œstrogènes, par exemple, ont un effet protecteur sur cette dégénérescence des plaques séniles et des neurofibrilles. Donc ça, c'est très intéressant de savoir qu'une femme à la ménopause va augmenter son risque, surtout si elle ne prend pas de traitements hormonaux de la ménopause, et que je recommande fortement, sauf s'il y a des antécédents de cancer du sein, bien sûr, mais je recommande fortement quand même de prendre ces fameuses hormones au moins 5 à 10 ans, parce que c'est quand même une protection neuronale très importante. Les femmes qui n'ont jamais pris de THM, Traitement hormonal de la ménopause, on ne parle plus de traitement hormonal substitutif, maintenant on fait THM, ont moins de chances et moins de risques de faire une maladie d'Alzheimer que les autres. Et dernier élément en cause, donc on a dit inflammation, oxydation, intoxication par les métaux lourds, déclin hormonal, et le cinquième c'est le microbiote.
Biote.
Oui, ouais, bravo, oui. Il l'a trouvé. Ouais. Il allait dire.
Ouf, j'allais dire le micro-ondes, moi.
Le micro-ondes, c'est pas tout à fait pareil.
Allez, on rigole. Une pause.
Allez, petite pause là-dessus. Vous aurez la suite juste après.
Et la suite dans un instant. C'est sur Nutri Radio. Merci d'être avec nous.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
La suite de cette émission consacrée aujourd'hui à Alzheimer. Santé intégrative avec Vincent
Alois
Renaud.
Alois Alzheimer.
Tout à fait. Merci.
Neurochirurgien allemand.
Merci Vincent. À chaque fois, il y a de l'enseignement dans l'enseignement.
C'est en comme 1908.
Comme les poupées russes, ça ne s'arrête pas. À vous parliez sur le dernier doigt de la main de cette considération de maladie d'Alzheimer, du microbiote. Clé.
Oui, du microbiote. Voilà. Alors, il y a même des études très intéressantes. J'ai fait beaucoup de recherches pour un petit peu préparer cette émission.
Évidemment, hein, on en parle depuis 3 semaines un peu.
Ça fait 3 semaines qu'on est dessus, sur le sujet. Je ne voulais pas me retrouver un petit peu bête par rapport à vos questions aussi brillantes, Fabrice, parce que je vois que vous connaissez bien le sujet aussi. Et j'ai une étude intéressante qui montre qu'une petite bactérie qui s'appelle Escherichia coli, ça vous parle ?
Tout à fait.
Voilà, l'Escherichia coli qu'on va trouver dans le microbiote, mais qu'on trouve aussi dans les problèmes vésicaux chez les femmes, en particulier, enfin les hommes aussi, mais c'est surtout les femmes qui font ce qu'on appelle les cystites Escherichia coli. Et la problématique de l'Escherichia coli, c'est qu'elle produit un biofilm. Et c'est pour ça que les antibiotiques, au bout d'un moment, sont plus efficaces. Donc elles vont se mettre une espèce de carapace, et elles vont adhérer à la paroi vésicale, et elles vont se planquer. Du coup, notre système immunitaire ne le voit pas, et en plus, les antibiotiques passent à travers. Ce qui explique que vous avez des femmes qui font des cystites à répétition. Alors il faut savoir que ce fameux Escherichia coli, l'Escherichia coli, le Shigella, et certains Clostridium sont des bactéries présentes dans le microbiote, et qui pourraient être des agents en cause dans cette maladie d'Alzheimer. Parce que ce biofilm fabriqué par l'Escherichia coli ressemble beaucoup à cette protéine amyloïde, cette bêta-amyloïde, et elle a des similitudes par rapport à ce film dont j'ai parlé, ce film un peu transparent, ces films étirables, comme on l'appelle dans la cuisine. Et donc, c'est déjà un lien assez intéressant. On sait que ces bactéries pathogènes peuvent aggraver les symptômes de l'Alzheimer, et on a même des études, en particulier en Scandinavie, qui montrent que la prise d'antibiotiques qui combattent justement ces fameuses bactéries permettent de faire diminuer de manière significative les symptômes de l'Alzheimer. Donc ça, c'est intéressant. De là à traiter tous les patients qui sont en Alzheimer, alors je dirais en phase 1, hein, il y a trois étapes d'évolution dans la maladie d'Alzheimer, entre 2 et 5 ans pour la phase 1, 2 et 5 ans pour la phase 2 et 2 et 5 ans pour la phase 3. Sachant qu'il y a des formes très, très, très accélérées, hein, il y a des Alzheimer en 5 ans, malheureusement, ça se termine souvent mal par un décès. Et puis des Alzheimer qui peuvent évoluer sur 10, 15, 20 ans avec une évolution relativement lente et qu'on peut ralentir et on peut allonger la durée de vie justement grâce à ce qu'on va dire aujourd'hui sur les antennes de Nutri Radio. Alors cette étude était intéressante parce qu'elle montrait qu'en donnant des antibiotiques, on pouvait améliorer les symptômes de l'Alzheimer, mais est-ce que si on donne des probiotiques, on peut améliorer les symptômes ? La réponse est oui. Certaines souches ont été étudiées, notamment le Bifidobacterium longum, vous connaissez certainement. Vous êtes parti en vacances la semaine dernière avec lui, c'est ça ?
Exactement, je ne connais que lui.
Que lui, hein.
Il les embrasse d'ailleurs.
Le longum, Lactobacillus aussi, Rhamnosus. On a pas mal de souches de Streptococcus aussi qui ont des effets intéressants dans la protection neuronale. On sait le lien intestin-cerveau, et ça, il faudrait faire une émission. Mais je pense qu'avec Véronique Liès, vous l'avez certainement déjà débattu ce sujet.
On en a parlé, on pourrait également même en parler avec le docteur en neurosciences Célia Morès qui pourrait nous faire un
topo là-dessus, ça serait très intéressant. Et on a aussi beaucoup d'études sur la transplantation fécale. Alors au début, ça a été fait déjà chez les souris et ça marche très bien, c'est-à-dire qu'on prend des souris saines, on leur prend le microbiote et on va l'injecter à des souris qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, à qui on a induit cette maladie. On est dur avec les souris quand même, hein. Je trouve que c'est...
Qu'est-ce que j'allais vous dire ? La manière dont vous venez de dire ça, c'est une prise de conscience.
Nos amis, les protecteurs des animaux, ne m'en veuillez pas, je ne suis pas responsable de ces techniques atroces qu'on en fait.
Et grâce à elle, on peut dire que grâce à elle, on a...
La science avance, voilà. Et donc, on va transplanter un microbiote sain d'une souris saine à une souris Alzheimer, et on voit les symptômes régresser. Donc, c'est quand même des pistes très intéressantes, et ça, je pense qu'il faut faut le souligner. Ça fait partie des pistes dans le programme Recode. Et puis, bien sûr, j'oubliais, dans ce fameux programme Recode, il va vous donner différents éléments avec des marqueurs intéressants biologiques qui permettent d'évaluer l'évolution de la maladie. Alors, il y a quelques marqueurs biologiques, c'est l'insulinorésistance, je l'ai dit, donc glycémie à jeun, dosé fetloma. Alors tout ça, bien sûr, prescrit par un médecin. Hein, on ne fait pas ça chez soi dans sa cuisine. Hein. Je rappelle que tout ce qu'on dit sur l'antenne de Nutri Radio ne se substitue pas à l'avis d'un médecin ou d'un neurologue. Maintenant, certains neurologues sont déjà très en avance sur ces recherches sur la maladie d'Alzheimer, sachant qu'il n'y a pas de thérapeutique en médecine conventionnelle. Et donc forcément, il y a un attrait tout nouveau vers cette santé intégrative et vers ces approches nouvelles. On donnera les solutions peut-être dans la deuxième émission.
Exactement, la semaine prochaine, on va faire ça.
La semaine prochaine, on va apporter des solutions. Mais toujours est-il que les marqueurs intéressants, c'est la glycémie à jeun, le test de HOMA pour l'insulinorésistance, l'hémoglobine glyquée, bien entendu. Et un autre marqueur que je trouve très significatif, c'est l'homocystéine. On va doser la coenzyme Q10. Alors, quand on dose l'homocystéine, ça permet de mesurer des mécanismes assez complexes qu'on appelle la méthylation. Si elle est supérieure à 10, on sait qu'on a un défaut de méthylation et qu'on va avoir, on est à risque d'Alzheimer et d'accidents vasculaires cérébraux ou de maladies neurodégénératives. Alors, dans le livre de Recode de M. Bretzen, dans le programme Recode, pardon, lui, il parle même d'une homocystéine inférieure à 7. Il faut détoxifier de manière énergique, en particulier chélater les métaux lourds, l'aluminium, il y a aussi le cadmium, le plomb, le mercure et l'arsenic qui sont probablement en cause dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, on va faire des dosages de métaux lourds. Donc, on peut le faire dans les urines ou dans le sang ou au niveau capillaire. Mais bon, pour Fabrice, ça va être plus compliqué.
Je vous remercie. Ça, c'est encore une balle perdue, mais j'en ai marre.
De temps en temps, voilà, je me venge. Parce qu'il me fait beaucoup souffrir, hein, Fabrice, parce qu'il me fait faire des sujets très compliqués. Le matin tôt, là, il est quelle heure ce matin?
Il est 9h30, là, à peu près.
9h30, oh là là, voilà, c'est difficile de se concentrer. Donc, l'homocystéine, le HOMA, l'hémoglobine glyquée, la coenzyme Q10, le glutathion, le zinc, le sélénium, bref. Il y a toute une batterie d'examens à faire. Vous savez que je travaille avec pas mal de laboratoires de biologie fonctionnelle et de biologie prédictive. Il y en a de plus en plus qui se développent, notamment maintenant en France, vous avez Eurofins qui fait des tests intéressants. Et ils ont un test justement sur la neurodégénérescence. Ils ont un espèce de pré-bilan type qu'on peut demander. C'est le laboratoire Eurofins, donc Biomnis.
Oui, ne citez pas des marques. Alors, juste,
alors je cite le laboratoire BioAvenir qui le fait, l'IMS. Vous avez SynLab.
Trois marques, voilà, ça c'est bien. Là, on est bon.
Vous avez 4-5 laboratoires sérieux qui font ces bilans pré-Alzheimer. Et il ne faut pas attendre, évidemment, pour faire le programme Recode dont on parlera la prochaine fois avec la supplémentation, il ne faut pas attendre d'avoir 70-75 ans. Je rappelle que l'Alzheimer se construit 10-15-20 ans avant les premiers symptômes. Ouais. 10-15-20 ans. Ça veut dire que quand on est dans la médecine préventive, on est dans le vrai. Si vous allez voir un neurologue pour vous dire, voilà, j'ai un terrain à risque, j'ai peur, parce que on verra quelles sont les professions aussi à risque, quelles sont les situations à risque, et chez quelle personne il faut faire ces tests et ces bilans biologiques prédictifs par rapport à la génétique, par rapport à l'environnement, par rapport aux causes nutritionnelles, peut-être... On peut citer peut-être quelques...
Oui, allons-y et on alors, quoi, on moi, termine là-dessus et en même temps, dites un mot sur ce que j'ai l'impression, vous avez parlé de ménopause tout à l'heure, des hormones, etc., que la femme est quand même aussi plus exposée que l'homme. Donc, quelles sont les situations à risque et qu'en est-il de la femme?
Alors, les situations à risque, c'est surpoids, obésité, diabète, forcément, insulinorésistance, donc là, clair. L'âge, forcément, plus on vieillit, plus on va vers de la neuro-inflammation. Les personnes qui souffrent de dysbiose chronique depuis des années, SIBO, candidose, hyperperméabilité intestinale, intolérance alimentaire diverses et variées, intolérance à l'histamine, sont beaucoup plus à risque. Les personnes qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires aussi, en particulier l'hypertension ou qui ont eu déjà des coronaropathies, fait des AVC, etc. Les dépressifs chroniques, des gens qui ont pris des antidépresseurs pendant des années, le terrain anxio-dépressif dont on parle souvent, c'est très important aussi à évaluer. Les professions à risque, celles qui sont exposées à tous ces pesticides, en particulier dans le bâtiment, les agriculteurs, hein, on pense quand même aux pesticides et on pense à eux parce qu'on sait qu'ils souffrent beaucoup par rapport aux problèmes aujourd'hui économiques dont on parle pas toujours assez, on sait que c'est quand même les agriculteurs qui sont le plus touchés par le Parkinson et par la maladie d'Alzheimer à cause de l'exposition à leurs produits toxiques. Donc, est-ce qu'ils se protègent assez? On n'en sait rien, mais ça pourrait être un débat. Il y a les professions, voilà, le pressing, les coiffeurs, les esthéticiennes, tous ces solvants que vous respirez toute la journée sont des professions à risque. Les gens qui travaillent dans la pétrochimie, dans l'industrie du plastique,
les graffeurs,
voilà, on pense à eux. Il y a énormément de situations. Alors j'ai appris une nouvelle pas très joyeuse d'une amie gynécologue qui est phytothérapeute et chez qui on vient de découvrir une maladie, alors pas d'Alzheimer mais Parkinson, mais on va dire que les causes physiopathologiques sont un petit peu les mêmes. Et sur le moment, je me suis dit, mais pourtant, c'est pas une profession à risque, gynécologue. Est-ce que c'est les femmes qui se transmettent? C'est pas contagieux. L'Alzheimer n'est pas contagieux, mesdames, je vous rassure. Et en fait, tout simplement, c'est qu'en faisant des frottis 3 à 4 fois par jour, elles sont obligées de mettre un fixateur sur les petites lames pour envoyer au microscope, pour envoyer à la napate, et ce fixateur est extrêmement toxique. Donc on oublie certaines professions. On n'imaginait pas qu'un gynécologue qui fait, ou des gens qui font de la napate et qui font de la recherche sur toutes ces substances ou dans les laboratoires de recherche pourraient être exposés à ces fameux fixateurs, ces solvants chimiques très toxiques pour les neurones.
Et alors, et les femmes?
Les femmes, ben forcément, pourquoi? Elles sont plus exposées parce qu'elles ont une protection hormonale qui sont les œstrogènes, une protection naturelle et physiologique, et à l'apparition de la ménopause, il y a un effondrement de ces œstrogènes, un dérèglement de tout le système immuno-inflammatoire qui contrôle la dégénérescence neuronale, et donc forcément, elles vont être beaucoup plus sensibilisées à cette maladie.
Et alors, ce gène APOE-epsilon,
vous m'avez couper l'herbe sous le pied, APOE4. Alors on sait que ce sont des polymorphismes génétiques, les APOE interviennent dans de nombreuses réactions, ce sont des facteurs de transcription très importants pour l'expression de notre ADN, et on a des études, alors il y a différents APOE, APOE 1, 2, 3 et 4, et alors moi j'ai fait mon test, j'étais un peu inquiet, j'ai demandé à une amie qui fait des tests de nutrigénomique, je crois que vous connaissez, donc j'ai oublié le nom, il est imprononçable son nom, hein. D'origine finlandaise, si je ne m'abuse.
Très compétente.
Très compétente. En nutrigénomique, je lui ai demandé de me faire mon test. Je n'ai pas la peau E4. Alors, certains laboratoires refusent de le faire parce qu'il y aurait eu des cas de dépression, voire de suicide à l'annonce de ce polymorphisme génétique qui touche et quand même relativement peu de personnes, entre 3 et 5% des Alzheimer ont un APOE4 positif, entre 20 et 25% sont APOE4 positifs, mais il y a quand même plus de 70 voire 80% de personnes qui vont développer un Alzheimer qui ne sont pas APOE4. Et puis il y a plein de gens qui sont APOE4 qui ne feront jamais l'Alzheimer. La question c'est au niveau de l'éthique, est-ce qu'il est bon de le savoir ou pas? Moi j'ai préféré le savoir parce que je me dis souvent, un homme averti en vaut deux. Si j'avais eu ce polymorphisme génétique, alors en gros quand on est APOE4, on va avoir une anomalie du repli de cette fameuse protéine amyloïde, et donc on va développer plus de risques parce que cette protéine ne peut pas s'étirer correctement et elle va provoquer des espèces de froissures, je ne sais pas comment si ça se dit, froissures, de perturbation du repli de cette protéine au niveau des plaques. Et donc c'est intéressant de le savoir parce que moi j'ai des personnes qui sont à APOE4 qui m'ont dit bah, raison de plus pour changer mon mode de vie et mettre en place ce fameux programme RECODE tout de suite à 45 ou 50 ans et pas attendre 70 ans de...
Mais c'est irréversible une fois qu'on peut,
quand
agir.
On est, oui, c'est un SNP, c'est-à-dire un single nucléotide polymorphisme, c'est un polymorphisme sur ce gène APOE4 et sur lequel on ne peut pas modifier. Par contre, l'expression du gène, on peut tout à fait la freiner. L'idée, c'est de dire, je vais changer mon mode de vie, je vais améliorer mon environnement, je vais moduler mon stress, parce que le stress est une cause majeure de maladies neurodégénératives, en particulier d'Alzheimer, pour éviter que cet APOE4 s'exprime.
Très bien, merci beaucoup docteur Vincent Renaud. On n'est pas en avance, mais c'était très intéressant. Et la semaine prochaine, vous voyez, une émission, ce n'était pas possible. On pourrait même en faire beaucoup plus, mais la semaine prochaine, on va vraiment parler de cette approche dont vous m'avez parlé, qui s'appelle... Hop, je l'ai noté parce que
Recode.
Merci bien. Et les solutions aussi, ce qu'on peut mettre en place pour prévenir, pour freiner et savoir si on peut même inverser ce processus. On va savoir la semaine prochaine.
On saura ça la semaine prochaine.
Dans un instant, c'est le retour de la musique sur Nutri Radio. Merci Vincent.
Merci à tout le public merci en foule, la foule en délire. Merci à toi Fabrice.
Science et stand-up, c'est un concept qu'on pourrait lancer. Le retour de la musique, c'est dans un instant. Le temps pour moi de vous dire que cette émission, vous la retrouvez en podcast à partir de 18h ce dimanche.
Santé intégrative, Vincent Renaud sur Nutri Radio.